With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
S'il vous plaît, votre recette, merci. Avec les chips.
Santé, Mario!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael Nadal!
Hello les légendes, c'est Max et bienvenue sur le podcast pour la deuxième partie de notre échange avec Alizé Cornet. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. C'est déjà notre 13e épisode et on a eu de super retours des deux derniers avec Eric de Blicquer et Marcos Baghdatis, que l'on vous invite vivement à découvrir. Et si c'est déjà fait ou si notre travail vous plaît, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est avec 5 étoiles sur Apple Podcasts et en nous mettant un commentaire, vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Apple Podcasts, c'est la plateforme numéro 1. Récolter de bonnes évaluations nous permet de faire connaître la chaîne, d'avoir des invités de renom et de tout donner pour vous régaler chaque semaine. Aujourd'hui, avec Alizé, on parcourt ses 12 ans de Fed Cup et 4 capitanas avec 4 coachs différents, que sont Nico Escudé, Amélie Mauresmo, Yannick Noah et Julien Beneteau. 4 approches donc et 4 personnalités très différentes sur lesquelles Alizé revient pour nous avec beaucoup de transparence et d'honnêteté. Elle partage ensuite avec nous son anecdote avec Rafa Nadal qui, on peut le voir ou l'entendre, fait toujours palpiter son petit cœur. Elle nous parle aussi plus en détail d'Amélie Mauresmo, qui lui a servi de mentor après avoir ramassé ses balles à 11 ans, après l'avoir joué à Roland-Garros 4 ans plus tard et défendu la France sous son capitanat. Alizé nous confie qu'Amélie l'aura toujours autant inspirée qu'impressionnée. On parle argent et sans langue de bois une fois de plus, surtout qu'Alizé est toujours restée en France et nous explique vivre très simplement au quotidien. Elle nous livre son secret pour réussir dans le tennis après 15 ans de carrière et avoir été toute proche d'arrêter, croyez-moi, c'est très très bon à prendre et à tous les niveaux. Fraîche et spontanée sur les questions de fin, cette deuxième partie révèle la personnalité d'Alizé et c'est un vrai bonheur. Elle est à retrouver en vidéo sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et venez aussi nous mettre un petit mot doux. Très bonne écoute et belle découverte à tous.
En coach, tu as eu Escudé, Amélie, Yannick, Georges Goven. Est-ce qu'en deux mots, à chaque fois, tu peux nous dire vraiment l'essence du coaching de chacun dans l'ordre chronologique?
Alors, pour Georges, je ne l'ai pas eu beaucoup sur le banc, mais Georges, c'était juste, c'était vraiment freestyle. C'était juste de l'énergie. Il avait une énergie communicative de dingue et c'était un super technicien et avec beaucoup de... Ah, il a une joie de vivre hyper communicative, Georges. Donc, voilà, c'était ça qui m'avait marqué le plus chez lui. Ensuite, on avait SQD. Moi, ça s'était pas très bien passé avec lui. Il m'inspirait beaucoup de peur, en fait. J'étais encore toute jeune quand je l'ai eu. Et Nicolas me faisait peur. Voilà. Sur le banc, j'étais terrorisée, en fait, sur le court quand il était là. J'arrivais pas à... On communiquait pas bien. On n'arrivait pas à se comprendre. Donc, c'est pas des souvenirs très heureux pour moi, son capitanat. Ensuite, il y a eu Amélie. Amélie, c'était la renaissance pour moi. C'était l'intelligence, la construction, l'organisation. Voilà, pour moi, ça a été vraiment un capitanat hyper agréable à vivre. Et ensuite, après, il y a eu Yannick. Bon, Yannick, pareil, je l'ai eu que sur 2 rencontres, Yannick. Yannick, c'était... C'était de l'improvisation en permanence, de l'improvisation et de la générosité. Voilà, Yannick, c'est ça. C'est que il a aucun plan, mais par contre, il donne tout ce qu'il a dans son improvisation. Donc, il nous communique le maximum de confiance, de générosité. Ouais, c'est un vrai personnage, quoi. Et après, bah, Bennett, ça a été un peu un mélange de tous ses capitaines, hein, sauf Nicolas, parce que Julien ne me fait pas peur. Mais c'est vraiment un bon mix entre tout ça. C'est que Il est peut-être un petit peu moins rigide qu'Amélie, qui est quand même assez, qui était assez rigide dans son fonctionnement. Donc, il a un petit peu plus de souplesse, mais en même temps, c'est constructif. Il a une transparence, moi, que j'adore. Il nous parle toujours franchement, à cœur ouvert. Il nous explique les choses, et ça, j'adore. Il arrive quand même à lâcher prise de temps en temps. Il fait confiance aux gens autour de lui. Et du coup, il y a vraiment des bonnes énergies qui se dégagent de son capitanat. On avait vraiment hâte de défendre notre titre à Budapest. Et ce report de la Fed Cup aussi, c'est dur à digérer, quoi.
Est-ce que tu as vécu des trucs cool à raconter avec Roger, Rafa ou Djoko?
Roger, il a reposté ma story sur Instagram hier. Ça a été le plus beau jour de ma vie, je pense. Ouais, parce que j'ai fait son challenge contre le mur là de voler, ouais. Son hat tap challenge. Et en fait, il l'a remis avec un commentaire sur sa story à lui. Et j'étais comme une dingue. C'est là où on voit que même si ce sont mes collègues de travail, en fait, je suis toujours une fan et je suis une gamine avec eux. Et Rafa, c'est pareil. Rafa, j'ai une anecdote, c'est que lors d'une soirée des joueurs à Roland en 2015 ou un truc comme ça. Je suis arrivée à la soirée et alors Rafa il me connaît, il me dit toujours bonjour, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est mon joueur préféré, je le vénère, hein, Rafa. Et là, ce soir-là, je sais pas ce qu'il lui a pris, il est venu et il m'a fait la bise. Et je me souviens, j'étais comme ça, je savais plus où mettre. Pourtant, moi, je suis assez extravertie et il en faut beaucoup pour m'impressionner, mais là, c'était quand une bise de mon idole. Et même si je le croise tout le temps sur les tournois, il m'avait dit « Hello, Alizé, how are you ?» avec la bise. Mais là, ça avait été aussi le plus beau jour de ma vie. En termes d'anecdotes sportives, je ne peux pas rêver mieux. Après, Djoko, je le connais beaucoup moins, donc pas d'anecdotes.
Et voilà. Vrai, pareil.
Andy, j'adore ce joueur et j'adore sa personnalité surtout. Je le trouve hyper drôle. Il a ce côté british qui me fait délirer. Mais on ne s'est jamais vraiment parlé en dehors du court. Et ce que j'adore chez ce joueur aussi, c'est qu'il défend toujours la cause des joueuses féminines et des femmes en général. Et ça, je trouve ça hyper novateur et cool.
À petite anecdote, Roger qui relaye ta story, t'as pris combien de followers d'un coup?
Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai déjà pas mal. En fait, j'ai pas regardé. Peut-être que j'en ai pris. Non, mais je pense pas parce qu'il a reposté tellement de vidéos. Et puis, je pense qu'en fait, dans le milieu du tennis, je suis quand même connue. Donc, je suis une figure connue. Les gens savent qui je suis. Et je suis pas sûre de prendre des followers grâce à lui. Et puis, en plus, c'est pas le truc qui m'importe le plus, quoi.
Au niveau du top 3 des filles, quelles seraient les joueuses, si tu devais en isoler 3, qui t'ont vraiment le plus apporté sur ta carrière, dont tu t'es le plus inspiré? La proximité aussi avec elles, tu vois, de relations vécues sur le court, pas que Serena, elle a un gros revers, j'ai essayé de faire pareil. Quoi,
Mais surtout que moi, tennistiquement, je me suis beaucoup, beaucoup plus inspirée des hommes, en fait. J'ai toujours eu des idoles masculins, que ce soit Roddick, Antic, Nadal, ça a toujours été... Je me suis toujours beaucoup plus identifiée à des joueurs masculins, ce qui est bizarre. Après, il y avait des joueuses que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup. J'adorais Justine Henin. J'adorais Justine Henin parce que elle montrait que même avec un petit gabarit, parce que c'était quand même une demi-portion, Justine Henin, elle était assez fine et assez petite et elle avait un tel relâchement, un tel jeu, une telle. Elle la sentait, quoi, la balle et j'adorais sa concentration, j'adorais sa volonté, sa détermination. Donc, je me retrouvais un peu en elle là-dessus. Donc ça a été une des filles, des championnes qui m'a inspirée tennistiquement. Après, évidemment, Amélie, ça a été une inspiration pour moi parce que au final, on s'est aussi suivi pas mal avec Amélie. Moi, j'ai ramassé ses balles quand j'avais 11 ans. Terra Azura à Nice, il y avait eu une édition seulement et j'avais été ramasseuse de balles. Elle avait gagné cette édition. 4 ans plus tard, je jouais contre elle sur Suzanne Lenglen. Et encore 6 ans plus tard, elle devenait ma capitaine de Fed Cup. Donc, il y a quand même eu 3 espaces-temps hyper différents où je l'ai connue avec différentes casquettes. Et à chaque fois, moi, elle m'a impressionnée de par son intelligence, sa gestion des choses. On sent que c'est pas qu'une joueuse de tennis, c'est une fille aussi qui est très intellectuelle et qui sait exactement où elle veut aller et comment elle veut y aller. Et ça, c'est une grande inspiration. Et pour avoir vécu en Fed Cup tous les jours avec elle, elle m'a toujours un peu impressionnée, Amélie. C'est marrant, j'ai jamais pu vraiment complètement me lâcher avec elle parce que j'ai toujours eu cette retenue par rapport à ce qu'elle m'inspirait. C'est marrant. Après, troisième joueuse.
Un joueur, du coup.
Un joueur qui m'a énormément inspirée en dehors de Rafa, c'est Roddick. Franchement, j'en suis même venue à servir comme lui à un moment donné. À 17 ans, je servais comme ça. Moi, je servais à deux à l'heure, hein, mais j'avais le même geste.
Pour passer sur le volet financier, tu as gagné 7 313 913 dollars, ce qui est honorable et plus qu'impressionnant. Quel regard tu portes sur ce montant ?
Surtout, la question, c'est qu'est-ce qui reste de ce montant ? C'est surtout ça, la question. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est du brut là, qu'on voit. Alors, avec les 33% de taxes WTA, plus la déchirade des impôts en France, parce que moi, je ne suis jamais partie à l'étranger, comme tous mes chers compatriotes joueurs. Moi, depuis que j'ai gagné de l'argent sur le circuit, je suis restée en France depuis le début. Du coup, je pense qu'il y a bien la moitié qui est partie dans les impôts. Mais bon, c'est... Même s'il y a la moitié qui est partie, c'est quand même une carrière hyper honorable, comme tu le dis. L'avantage chez moi, c'est que j'ai jamais joué au tennis pour l'argent. Donc du coup, c'est que du bonus. Moi, j'ai fait de ma passion mon métier. Donc je suis une des plus chanceuses personnes au monde, comme tous les joueurs de tennis qui sont passionnés. Et du coup, l'argent, ça venait en bonus. On a eu beaucoup de chance en plus d'avoir une augmentation du prize money au fur et à mesure des années. Parce que moi, quand j'ai commencé à 15 ans, le premier tour de Roland, mais je crois que c'était 10 000 balles, hein, c'était pas beaucoup. Et maintenant, on en arrive, c'est 50 000 ou même plus. Donc, l'augmentation, elle a été exponentielle. Et ça aussi, c'est une grande chance. Et au final, moi, j'ai toujours eu la valeur de l'argent. Mes parents ont toujours inculqué des valeurs hyper fortes. Et là, tu vois, moi, j'habite dans un petit appartement à Cannes de 60 mètres carrés. Je vis pas au-dessus de mes moyens. Je suis contente parce que j'ai fait des économies pour le futur. Et ça, c'est cool. Si j'ai pas envie de travailler derrière, je serai pas forcément obligée. Donc ça, c'est vraiment aussi une grande chance. Mais je suis pas une flambeuse et je regarde pas mon compte en banque en me disant j'ai des millions sur mon compte. Vas-y, on va tout flamber. Moi, c'est vraiment le contraire. Je vis très simplement au quotidien et du coup, c'est cool parce que j'ai pas cette pression-là sur les épaules par rapport à mon tennis. Donc, je joue que pour le kiff, pour progresser et pour me challenger, quoi.
Yes. T'as quand même un grand garage, j'ai vu, sur lequel tu peux faire du mur.
C'est le garage de la copropriété. Et d'ailleurs, je me suis fait insulter, je tiens à te le dire. Les voisins du dessus, ah ouais, ils m'ont mis un violent carton. Ouais.
Pourquoi t'as toujours tenu à rester en France, du coup ?
J'ai failli partir à Dubaï vers 24 ans et puis je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, j'aime trop vivre en France. J'aime trop vivre en France, j'aime trop ma région. Moi, je suis de Nice à la base, maintenant j'habite à Cannes, mais c'est la Côte d'Azur. Et en fait, je n'avais pas envie d'avoir à me cacher, parce que concrètement, quand on se délocalise, quand on se défiscalise en Suisse, que ce soit à Doha ou Dubaï ou ailleurs, le fisc te surveille, le fisc regarde si tu n'as pas ton point d'intérêt fiscal qui n'est pas en France quelque part. Et en fait, ça me faisait peur, j'avais pas envie de me cacher, j'avais envie de vivre ouvertement en France, et c'était le prix à payer finalement pour vivre en France, c'était de payer des impôts. Après, ça t'empêche pas d'investir ton argent dans des placements intelligents pour pas te faire découper non plus à outrance, mais je me voyais pas avoir des obligations déjà avec la vie de voyage qu'on a, mais en plus se mettre des obligations supplémentaires pour partir à Dubaï et passer quelques jours là-bas parce que c'est obligé, ou alors en Suisse, ou alors je ne sais où. Voilà, moi ma vie elle est simple, quoi. Quand j'ai envie de rentrer chez moi, je rentre chez moi, j'ai pas à me cacher, Et c'est très bien comme ça. Et puis au final, j'ai été éduquée aussi avec un dicton qui m'est resté. C'est que ma mère m'a toujours dit, quand on paye beaucoup d'impôts, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, c'est un bon problème. Oui, je paye des impôts. Bah oui, mais il m'en reste assez pour vivre. Et comme je t'ai dit, je n'ai pas de dépenses énormes. Donc, je m'en fiche, en fait. Enfin, pas je m'en fiche. On a tous envie on travaille dur pour avoir cet argent. Donc, je peux comprendre les gens qui ont envie de le garder, mais en même temps, on est des citoyens français, et c'est un peu aussi notre devoir de citoyen de payer quelques impôts, quoi. Voilà.
Regardez un intérieur sport sur Kylian Mbappé qui disait c'est fabuleux que je gagne des millions, mais au final, je jouerai au foot exactement de la même manière. Donc, tant mieux pour moi. Mais ça ne change rien à ma motivation. Je trouve ça incroyable.
C'est génial d'avoir cette fraîcheur. Ouais.
Est-ce que tu te souviens du premier gros chèque que tu as gagné et ce que tu as ressenti ?
Non.
Même pas ?
Non. Je me souviens de mes plus grosses victoires, des émotions qu'elles m'ont procurées, de ma première top 10 et tout ça. Mais du premier chèque, non. Aucun souvenir.
Wow. Ouais. Que tu as fait une folie particulière.
Non, je m'en souviens, il y a un truc qui m'a marqué. Si, quand il faut que je le dise. Si, alors à 16 ans, ouais, je crois que c'est ça. À 16 ans, j'ai gagné mon premier 25 000 à Bari en Italie. J'avais battu Tatiana Garbin, je m'en souviens, en finale. Et j'avais pas eu un gros chèque, hein, parce que franchement, à gagner un 25 000, c'est pas un gros chèque. Mais pour moi, c'était, ouais, c'était symbolique. Et je me souviens, j'étais allée m'acheter un iPod. Les gros iPod 20 gigas comme ça, tu sais, en 2006. Et ça avait été genre la grosse folie parce que je m'achète jamais rien, et surtout à l'époque encore moins. Et j'étais allée à la Fnac, ou je ne sais où, et j'allais m'acheter mon iPod, et j'avais claqué je sais pas combien, et je m'étais dit ça c'est pour mon 25 000 de Barry. Voilà, la petite anecdote, ça je m'en souviens.
Tu te souviens d'une folie un peu folie financière que tu as pu faire, et avec du recul, qui n'a pas forcément beaucoup de sens?
Non. Bah non, là je crois que tu as cerné le personnage. Des folies, j'en fais, mais elles ont toujours du sens.
Est-ce qu'à un moment donné de ta carrière, tu as un peu pris le boulard, tu penses?
Je pense pas, mais c'est pas à moi qu'il faut demander. C'est à mes proches, à mon entourage. J'ai toujours eu des gens autour de moi pour bien s'assurer que je prenais pas le boulard. D'où l'exemple de ma mère qui m'a fait monter à la montagne après Roland 2005. Donc je pense qu'à partir du moment où on a des gens qui veillent au grain autour de soi... Et puis, j'ai une personnalité comme ça, très terre-à-terre aussi. Donc, je pense pas avoir pris le boulard tant que ça. Mais bon, voilà, il faudrait demander à d'autres personnes. Ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, je l'ai pas. Voilà. Je sais, ce par quoi je suis passée, à quel point c'est dur. J'ai pris des claques et la vie m'a tellement éduquée, comme tout le monde, avec des passages plus difficiles que d'autres, que je pense qu'à partir d'un certain âge, on le perd, le boulard. Parce qu'en fait, on sait que la vie, c'est... Ça sert à rien de l'avoir. La vie nous éduque et au final, on est tous égaux, et c'est pas parce qu'on est joueur de tennis qu'on vaut mieux que quelqu'un d'autre.
Le meilleur conseil qu'un coach ait pu te donner?
Ouais, le meilleur conseil, je sais parce qu'il m'a marqué, et c'était par rapport à... J'étais dans une phase en 2012 quand je suis montée à Paris. Je suis montée m'entraîner avec Georges Gauven et Pierre Chéret. J'avais deux entraîneurs. Les deux voyageaient avec moi de temps en temps, ils se relayaient. Et à cette période, j'étais dans le dur parce que j'arrivais plus à être moi-même sur le terrain. En fait, je me posais tellement de questions par rapport à mon attitude, comment je devais être, comment je devais pas être, est-ce que je devais continuer à râler, est-ce que je devais m'encourager autant, est-ce que je perdais de l'énergie. En fait, c'était tempête sous un crâne. Je ne savais plus être spontanée sur un court. Je jouais, mais mon attitude, ma mentalité, j'étais tout le temps en train de trop réfléchir sur qui je devais être. Donc voilà, un peu une crise existentielle tennistique. Et un soir, je perds un match à Acapulco au bout de la nuit en faisant un match dramatique. Et je mange un burger avec Pierre Chéret au bord de la piscine d'Acapulco. Et puis là, on a une longue conversation pendant 2 heures. Et il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée et en fait qui m'a fait m'assumer derrière. Il m'a dit « Comment tu veux faire un métier anormal en étant normal ?» Et ça, ça m'a... Ouais, c'était hyper profond. Je pense qu'il ne pensait même pas que ça allait me marquer à ce point. Mais c'était justement pour m'expliquer que le tennis, c'est un sport de barge. Et en fait, tu ne peux pas le faire si toi-même, tu n'es pas un peu barge. Et en fait, je voulais être quelqu'un de trop normal sur le court. Et ça ne me ressemblait pas parce que je suis une dingue de tennis. Je suis une dingue tout court sur le court. Et il fallait que j'assume cette part de d'anormalité, tu vois, pour être moi-même. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, tu as raison. Allez, retour aux bonnes bases, je vais être une hystérique sur le court, tant pis, et un jour j'arriverai à trouver le juste milieu. Et donc je me suis lâché la grappe à partir de ce moment-là et j'ai regagné des matchs parce que je suis redevenue moi-même, quoi. Voilà.
Et si toi, tu avais une jeune de 10 ans devant toi et que, de par ton expérience, tu devais lui transmettre ce que tu sais, et que cette jeune de 10 ans rêve de devenir joueuse de tennis professionnelle, tu lui dirais quoi?
Ouais, c'est dur hein, comme conseil, parce que ça dépend tellement de... En fait, ça dépend tellement de la joueuse de 10 ans que j'ai en face de moi. À 10 ans, on sait déjà à peu près quel genre de joueur on est. Moi, à 10 ans, j'étais la même que maintenant, presque. Et donc, ça dépend quelles sont les problématiques, quelle est l'envie, quelle est la motivation. C'est toutes les petites filles ont une motivation différente et un caractère différent. Mais ce que je dirais, c'est que... On peut pas arriver au niveau sans travailler très dur, ça c'est une certitude. Mais on n'a pas à faire devenir ce travail un carcan en fait. On peut travailler dur, mais tout en restant amusant, tout en restant ludique, parce que le tennis c'est un sport hyper ludique. Et si on arrive à garder cette part de fraîcheur, cette part de ludique dans le travail, en fait c'est le super compromis. Moi j'ai toujours travaillé comme une ouf, et en fait ça a commencé à me lasser quand j'arrivais plus à trouver de plaisir. Et donc, en fait, c'est trouver ce bon compromis entre se déchirer et travailler du plus dur qu'on peut, et en même temps, garder ce plaisir, cette fraîcheur, cette envie, et se rappeler constamment pourquoi on joue au tennis, pourquoi on aime ça. Voilà.
Est-ce que tu peux nous faire dans la chronologie les sponsors que tu as eus du premier à aujourd'hui ?
Mon premier sponsor, c'est facile, ça a été Lacoste. C'était ouais. Bruno Robeux qui m'avait repéré. J'avais 11 ans. Et je me souviens, il m'avait envoyé mon premier carton de fringues à la maison à Nice quand j'avais 12 ans. Donc ouais, juste après 11-12 ans quoi. Ah, je m'en souviens hyper bien. C'est drôle parce que je suis pas très mode, pas très fringues. Je fais jamais de shopping et ça m'a jamais vraiment intéressé ce que je mettais sur le dos pour jouer. Mais là, ce premier carton avec les petites jupes plissées Lacoste, là, comme ça, c'était adorable. Donc j'avais les petites jupes plissées, j'avais la tenue Lacoste en plus. Lacoste, c'est quand même c'est assez prestigieux en France. Enfin, ça a une bonne image. Et oui, il y avait les racailles dans mon collège qui s'habillaient en Lacoste, mais ça a quand même cette histoire du tennis, quoi. Et je me souviens, j'étais surexcitée d'avoir mon premier sponsor. Donc ça, c'était Lacoste en premier. Mon premier contrat raquette, ça a été avec Wilson, à partir du même âge, à partir de 12 ans. Après, à 15 ans, j'ai switché pour Ed en raquette. Lacoste, je suis restée pendant 15 ans chez eux. Donc, ça fait seulement 2 ans que je suis chez Lotto. C'est la troisième année où je suis chez Lotto cette année. Et en raquette, j'ai eu donc Wilson. À 15 ans, j'ai switché pour Ed pendant 7 ans. Et à 22 ans, j'ai eu Babola jusqu'à maintenant. Donc, ça fait 7 ans que je suis Babola.
Tu as une sorte de salle de trophée un peu ou une étagère où tu mets tes coupes ou comment tu gardes tous ces souvenirs?
Ouais, chez mes parents, j'ai dans le garage, on a fait une sorte d'étagère un peu à l'arrache avec des coupes et des médailles et depuis toujours. Donc du coup, ouais, je pense que mon père semble dire, il en a balancé quelques-unes aussi parce que ça prend quand même beaucoup de place. Et je pense qu'ici j'ai la meilleure étagère du monde puisque bon, faut juste regarder celle qui est au milieu. Voilà, celle-là.
Yeah. Ouais.
C'est la Fed Cup. Voilà, avec la médaille. Donc celle-là, je la garde à la maison, chez moi, bien précieusement.
Ça me fait penser à Fab Santoro. On fait un épisode et je lui dis, t'as gagné l'Open d'Australie en telle année en double. Et il me dit, ah non, c'était l'année d'avant. Il tourne son ordi, il chope la coupe, il me fait, ah ben non, t'avais raison. Avec
mais
la coupe
non. De. Quel bizarre alors, ce Fabrice.
Au niveau de tes réseaux sociaux, comment tu les gères? Combien de temps tu passes par jour? Et quelle utilité t'en as?
En ce moment, beaucoup trop, j'ai envie de dire. En même temps, tout le monde en confinement, je pense, passe un peu plus de temps sur les réseaux. C'est dommage, mais cela dit, j'essaie vraiment de me contrôler pour faire d'autres choses aussi parce qu'on se fait vite aspirer par toute l'actualité qui passe. Enfin, toutes les différentes stimulations qui passent sur les réseaux en ce moment, c'est incroyable. Moi, je passe un peu de temps pour donner des news et pour faire un fil d'actualité pour les fans et pour les gens qui me suivent. Je trouve ça sympa d'avoir un peu une idée de ce qu'est la personne en dehors du cours, ce qu'elle aime faire, ses délires. En général, j'essaie de poster des trucs soit de sport, soit des trucs un peu rigolos, décalés ou des trucs où je suis chez moi. Enfin, je le fais vraiment au feeling, je me mets pas un point d'honneur à faire un truc parfait, juste voilà, donner des nouvelles. En plus, je fonctionne plutôt bien parce que j'ai quand même pas mal de followers sur Twitter et Instagram. Et sur Twitter, ce que j'aime bien sur Twitter, c'est que c'est vraiment une bonne plateforme de contestation des fois. Alors moi, je suis un peu contestataire comme joueuse. J'hésite pas à l'ouvrir quand il le faut. Et parfois, ça permet aussi de dire ce qu'on pense, quoi. Alors ça n'a pas besoin d'être agressif parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'agressivité sur les réseaux et je déteste ça. Mais juste, voilà, communiquer à droite à gauche, partager, donner son avis. C'est vraiment un truc hyper interactif, Twitter. Et c'est ça que j'aime bien avec ce réseau social. Après, voilà, ça m'apporte pas grand-chose. Hein. Je gagne pas de sponsors en plus pour ça. J'ai plutôt des bons retours de la part des gens qui me suivent. Et c'est tout ce qui compte, quoi.
Avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram, t'as pas forcément des marques qui viennent te contacter en plus pour des OP ponctuels ou des choses comme ça?
C'est arrivé, mais très très rare, très très rarement. Souvent, c'est marrant parce que souvent les marques me contactent, mais ça va jamais au bout du processus. Voilà, peut-être parce que je force pas assez le destin aussi, mais non, c'est pour l'instant c'est pas très lucratif les réseaux sociaux pour moi.
Carton jaune.
Ça va, ça fait une heure d'écart qu'on parle, putain, le mec m'a créé un carton quoi.
Tu disais que tu étais assez contestataire. Est-ce que tu fais partie du board de la WTA ou c'est quelque chose que tu aimerais tendre dans cette direction ou qu'est-ce que tu en penses?
Non, je fais pas partie du board WTA. J'y ai pensé à me présenter, mais je me suis jamais présentée parce que c'est hyper chronophage en fait d'être sur le, d'être, de faire partie du board. Ça demande de se réunir, ça demande de communiquer. Je vais peut-être le faire sur mes dernières années de circuit parce que je pense que c'est quand même une expérience assez enrichissante de voir un peu l'envers du décor et de faire partie du board. Ça fait que bah, on communique avec vraiment les instances de la WTA ou de l'ATP pour les garçons. Directement finalement sans filtre. Ouais, je me suis dit pour l'instant que ça prenait trop de temps et ce que j'aime bien faire c'est de communiquer directement avec les représentatifs du board pour me faire entendre et puis sinon je le fais de mon côté mais c'est marrant parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la crise du coronavirus finalement, les décisions du board elles étaient pas significatives que ça.
Ok.
C'est des petites décisions par-ci par-là, mais rien qui change le circuit en fait. Et je me suis toujours dit, ouais, faire partie du board c'est sympa, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment écouté? Est-ce que les choses changent vraiment? C'est toujours la même question. Est-ce qu'on perd pas notre temps à se fatiguer pour rien? Et au final, là, pendant cette crise-là, on voit vraiment que les filles du board sont hyper impliquées et elles font vraiment des choses super. Donc je voudrais la féliciter pour ça parce que franchement, moi-même, j'aurais pas cette patience et cette implication.
C'est lesquelles? Tu peux les citer?
Alors il y a Donna Vekic, Pavlyuchenkova, Christy Ahn, Alex Krunic. Il y en a deux ou trois autres. Johanna Konta. Ah, il y en a encore deux ou trois autres, mais je sais plus.
Tout à l'heure, tu parlais des JO qui sont décalés d'un an. Que du coup tu repoussais, bon, tu le disais un peu sous format anecdotique, tu repoussais ta carrière au moins d'un an, mais tu te vois jouer jusqu'où avec la longévité qui est de plus en plus repoussée aujourd'hui. Quelque part, ça fait quand même 15 ans que tu es sur le circuit. Comment tu te vois évoluer dans les années qui viennent?
Ouais, on va dire que mon corps commence à sentir un peu ces 15 ans de circuit. Là, des fois, je me sens vraiment vieille quand je me réveille, je me sens usée. Perclus de douleurs, d'arthrose. Enfin, c'est horrible, hein, d'être sportif de haut niveau à ce niveau-là. Surtout que le tennis est hyper demandeur comme sport. On a des programmes de mutants avec des déplacements du 1er janvier au 31 octobre non-stop, des changements de surface, de température, de décalage horaire. Enfin, c'est le corps, il prend des mites en permanence. Du coup, je m'étais dit que j'allais faire tirer au minimum jusqu'au JO 2020. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais faire tirer au minimum jusqu'à l'année prochaine. J'avoue que l'année dernière, en fin d'année après la Fed Cup, j'ai eu un gros moment de solitude où je me suis demandé si j'allais avoir la foi, la motivation et l'énergie pour me reprojeter sur une saison entière.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du coup, là, la question se pose pas. Je refais des batteries d'énergie et de fraîcheur pour les 10 ans à venir, je pense. Mais je pense pas que je vais jouer jusqu'à 35 ans parce que déjà, j'ai envie d'avoir une vie normale à un moment donné, peut-être une famille, tout ça. Enfin, j'y pense pas encore, mais il faut quand même l'anticiper un peu. Et puis surtout parce que à un moment donné, je pense que je sentirai que j'ai fait mon temps, tout simplement, et qu'il faut passer à autre chose, faut tirer sa révérence. Et je m'étais dit encore un ou deux ans maximum, donc voilà, ça colle encore. Tant que je peux faire mes quatrièmes Olympiades, c'est vraiment mon objectif number one. Et puis quand j'en aurai vraiment marre, et qu'il sera temps, je le sentirai. C'est ce que m'a dit Justine Hénin l'année dernière à Perth, je l'ai croisée, elle m'a dit, parce qu'on a parlé un peu de ça, je lui ai dit que j'étais fatiguée et que voilà, je savais pas trop si j'allais pouvoir me relancer encore deux ou trois saisons de plus. Et elle m'a dit, mais de toute façon, Alizée, t'en fais pas. Quand ce sera le moment, tu le sentiras au fond de ton cœur et voilà, ce sera tout naturel. Donc,
Carrière, t'as envie de quoi, tu sais, un petit peu?
Pour la pré-carrière, ouais, j'ai quelques idées sympas là qui me sont venues sur cette dernière année et demie. Mais bon, on verra en temps et en heure parce que je pense que c'est important de faire ce qu'on fait à fond. Donc là, en ce moment, c'est ma carrière tennistique et je veux y aller à fond jusqu'au bout. Et puis après, je pourrais me projeter sur mes futurs projets de vie. Et il y en a quelques-uns, hein. Toujours dans le sport, certains pas dans le sport. Et puis on verra ce que j'arriverai à faire ou pas. Mais, Mais je pense que je serai pleine de ressources. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis curieuse de tout. Et c'est excitant, en fait, d'un autre côté, parce que ce sera une toute nouvelle vie pour moi. Et c'est flippant et excitant en même temps, mais plutôt excitant.
Très bien. Bon, on arrive aux questions de fin qui sont communes à toutes les interviews pour élargir un petit peu le spectre tennis et puis mieux connaître peut-être la personne. Mm-hmm. Quelle est ta définition de richesse, Alizé ?
Ma définition de quoi ?
De la richesse.
L'amour. La richesse, quelle richesse ?
Peu importe ce que tu mets derrière la richesse.
Bah, pour moi, on est riche que d'amour et des gens qu'on aime et qui nous aiment. Donc pour moi, c'est ça, être riche de quelque chose.
Si tu n'avais pas été joueuse de tennis, tu aurais fait quoi ?
J'aurais adoré être écrivaine. J'aurais adoré être écrivaine. J'avais une carrière toute tracée dans le piano aussi. Hein. Moi, j'ai failli rentrer au conservatoire et tout, hein, mais après, j'ai pas pu avec le tennis. Mais être musicienne, c'est un truc qui m'aurait bien dit. Peut-être pas assez de dépenses énergétiques, mais par contre, le fait de jouer, de se challenger devant des gens, de faire le show et tout ça, ça se rapproche pas mal du tennis. Hein.
Et tu joues toujours et t'écris aussi en parallèle ?
Alors, j'écris toujours beaucoup, mais je ne joue plus au piano, malheureusement.
Qu'est-ce qui te rend heureuse à la fin de la journée ?
Ce qui me rend heureuse, plein de choses. Je me réjouis de pas grand-chose, moi, de faire la cuisine, de faire un bon plat, de regarder un truc sympa à la télé, de passer un bon moment avec les gens que j'aime, avec ma famille, d'avoir des news de mes potes, d'écrire quelque chose qui me plaît, de lire quelque chose qui me plaît. Franchement, il y a tellement de raisons de se réjouir de quelque chose qu'en fait, je trouve toujours une bonne raison pour être contente à la fin de la journée. Et je suis plutôt une optimiste dans l'âme, donc c'est cool.
Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'être une meilleure personne, concrètement ?
Je fais de la méditation depuis plus d'un an. Et ça m'a vraiment aidé. Alors, à être une meilleure personne, c'est un bien grand mot, mais à évoluer en tout cas, à apprendre à mieux me connaître, à évoluer, à mieux gérer mes émotions, à moins me laisser submerger, plus les observer et à être dans le présent. Et du coup, en fait, quand on est dans le présent avec la méditation, c'est ça qui est génial, c'est qu'on se débarrasse de plein de parasites en fait. Qui viennent nous embrouiller le cerveau, on se projette dans le futur, dans le passé, on n'est jamais vraiment concrètement dans le présent. Et la méditation, ça te permet juste d'être plus aligné, d'être plus serein. Et du coup, je pense que je suis un petit peu plus calme, un petit peu plus tolérante avec les autres. Donc forcément, ça fait peut-être devenir meilleur. À voir.
Tu l'as pratiqué avec une appli ou sous quelle forme ?
Au début, j'ai commencé avec un mentor qui m'a appris à méditer, qui m'a montré les bases et tout ça. Et puis là, depuis maintenant, toute seule comme une grande, sans appli, juste moi et ma respiration. Et puis voilà, c'est trop cool.
C'est quoi du coup ton rituel ? À quel moment de la journée et combien de temps ?
En général, j'essaie de le faire le matin. Là, aujourd'hui, j'ai pas pu le faire le matin, mais après, je trouve ça moins efficace et j'ai beaucoup plus de mal à le caser dans ma journée. Mais c'est le matin avant de me lever. Je fais 10 minutes quand j'ai pas le temps, 25 minutes, une demi-heure quand j'ai le temps. Et c'est trop cool. En général, je m'assois sur mon canapé, sur mon lit ou par terre, ça dépend. Et puis, je me concentre sur ma respiration, sur mes sensations physiques, enfin, les bases de la méditation. Je fais un peu de visualisation, surtout quand je suis en tournoi. J'essaie de me visualiser sur mon prochain match, sur comment je vais le jouer, contre qui je vais jouer, essayer de recréer un peu l'atmosphère d'un match réussi. Et puis voilà, les possibilités sont infinies en fait. C'est ça qui est bien dans cette recherche mentale.
De quelle manière tu te fixes des objectifs chaque année ?
Souvent avec l'entraîneur avec qui je travaille. On essaie de se poser, on chatte une demi-heure, une heure, et puis on se fixe des objectifs de travail, de jeu, d'attitude pour l'année à venir. Déjà, ce qu'on fait, ce que j'aimais bien faire avec Sandra, c'est qu'on le fait à court terme. Parce que je pense que si on se donne des objectifs pour une année entière, il y a tellement de fluctuations, tellement de choses, de paramètres qui peuvent entrer en compte. Moi, j'aime bien me fixer des objectifs à court terme. Et voilà, quand on arrive à les réaliser, on avance. Et en tout cas, c'est un travail d'équipe, je pense.
Le plat que tu cuisines le mieux, du coup ? Tu nous l'as évoqué juste avant que tu aimais cuisiner.
En fait, j'aime cuisiner depuis 25 jours. Depuis le début du confinement, je me suis trouvé un don, un talent pour la cuisine. Pas un don, parce que ça serait peut-être un peu pousser le bouchon, mais en tout cas, une passion pour la cuisine. J'aime beaucoup ça. Alors, je me suis toujours dit que ça prenait du temps et que c'était relou et tout ça. Et en fait, quand t'as que ça à faire, c'est génial de prendre ce temps-là. Là, j'ai cuisiné plein de trucs super. J'ai fait J'ai fait un gratin d'aubergine qui était top. J'ai fait. Ah, je me souviens plus. Non, enfin, c'est vous parce que j'ai fait un carnet quand même. Alors, je vais le chercher.
Ah,
bah oui, j'ai fait un carnet de recettes parce que je voulais pas oublier ce que j'avais fait pendant le confinement. Donc, j'ai fait. Alors, j'ai fait. Oui, donc gratin d'aubergine, j'ai dit. Oh, j'ai fait coquille Saint-Jacques risotto parmesan. Ça, c'était délicieux.
Joli.
Ouais, j'ai fait un curry de poireaux et pommes de terre. Magnifique. Je m'ai fait pour la première fois de ma vie des pancakes aux flocons d'avoine, c'était magnifique. Ouais. Voilà, entre autres. Mais encore beaucoup d'autres à venir. Et en tout cas, non, c'est vraiment agréable.
Superbe. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie en particulier ?
Ouais, il y a un livre qui m'a marqué, que ma mère m'a mis dans les mains dès que j'ai su lire, c'est Le Petit Prince. Et en fait, c'est un livre qui est génial parce qu'il est super évolutif. En fonction de si tu lis à 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50, tu comprends pas la même chose et tu découvres même de nouvelles choses à chaque lecture. Et c'est un livre super qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ouais.
Je crois que c'est un des livres les plus lus au monde. Et l'adaptation, le film qui est sorti il y a 2-3 ans, là, est incroyable.
J'ai adoré. Ouais. Il m'a fait pleurer. J'étais au ciné avec ma mère et on pleurait toutes les deux parce qu'en plus, c'est un lien commun hyper fort, Le Petit Prince, pour nous. Et du coup, on était en pleurs dans le ciné, ce qui est rare devant des dessins animés, d'adapter aussi bien des livres aussi complexes, en fait. C'est fort.
Un film récent que tu as découvert qui est très cool ?
Je veux dire, le premier qui me vient à l'esprit, mais j'ai adoré le Chant du Loup. Je ne sais pas si tu l'as vu, il est très bien.
Non. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté ?
Ça, c'est dur. Hein. J'en ai vu quelques concerts ouf. Alors, Muse au Stade de France, c'était ouf. En plus, comme tu sais, je suis une grande fan de Muse. J'ai assisté à un concert des Killers au Wembley Stadium. Oh, et c'était de la bombe. Je m'en suis toujours pas remise. C'était il y a longtemps pourtant. Hein. C'était avant à Wimbledon, peut-être en 2012 ou 2013. Ah, c'était exceptionnel.
Ah bon, ça. Juste petite question subsidiaire. J'entendais, Rodolphe Gilbert qui disait que pendant sa carrière, il regrettait de jamais avoir fait un petit crochet pour visiter un petit peu les villes dans lesquelles il passait, pris un avion pour découvrir l'Asie en rentrant d'Australie ou quoi. Est-ce que toi, tu as cette sensation d'avoir un petit peu optimisé ton temps pendant ta carrière de tennis ou pas du tout ?
Putain, quelle chance, il n'a pas eu à aller en Asie pour les tournois, purée, il a de la chance. Hein. Parce que nous, c'est la tournée qu'on essaye de fuir par excellence, quoi, la tournée asiatique. Non, moi, j'ai pas ce problème. J'ai été un peu, entre guillemets, autiste du tennis pendant quelques temps, au tout début de ma carrière, jusqu'à peut-être 21, 22 ans. J'étais très fermée, je visitais pas beaucoup, je faisais club, hôtel, voilà, comme un joueur de tennis de base qui n'est pas ouvert au monde extérieur. Et puis en fait, comme je suis une fille quand même curieuse, qui aime bien s'enrichir, et puis surtout, je voulais pas que ma vie ne tourne qu'autour du tennis, parce qu'en fait, c'est déjà le cas, 90% de notre vie, elle tourne autour du tennis, mais je voulais quand même exploiter un petit peu les 10% qui restaient pour apprendre des choses. Et du coup, à 21 ans, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il est temps de s'enrichir de ce qu'il y a autour de toi et de finalement de prendre partie de cette vie de voyage pour en faire quelque chose d'intéressant. Et là, j'ai vraiment depuis ce temps-là mis l'accent sur ce qu'il y avait à faire dans les pays où j'allais, dans les villes où j'allais. J'ai vraiment tiré parti de tous ces voyages de la meilleure manière possible. J'ai plein de super souvenirs.
Vraiment à la fin du tournoi ou
non, souvent au début, parce qu'en fait, à la fin des tournois, enfin ça dépend si c'est une tournée, mais en général, à la fin des tournois, quand on perd, on s'en va le lendemain. Soit on part sur le prochain tournoi, soit on reste peut-être un jour maximum avant de partir. Mais non, en général, c'est qu'on arrive 2, 3 ou 4 jours avant le début du tournoi. Et c'est ces jours-là, en fait, où en plus, il y a un peu de décalage horaire, il y a un temps d'adaptation, on s'entraîne un peu moins, on fait peut-être qu'une heure par jour, une heure et demie par jour. Du coup, ça laisse plein de temps dans la journée pour aller visiter, pour aller s'aérer. Et moi, c'est ces jours-là que je prends pour faire des choses. Et c'est trop bien. Ça aide vachement aussi à l'épanouissement du joueur de tennis. De s'ouvrir un peu l'esprit, et d'ouvrir ses yeux et de voir que le tennis, c'est pas non plus le centre du monde, quoi.
Ma question d'après, c'est quelle est ta plus grosse période de doute de toute ta vie ? A priori, tu nous en as peut-être parlé tout à l'heure quand tu as failli arrêter le tennis. Est-ce que c'est ce moment ?
Ouais, c'est complètement ce moment-là. Là, j'ai eu 2-3 ans entre 2010-2011. Ouais, 2 ans là. Alors on va dire à partir de mi-2009 à fin 2011, ça a été 2 ans et demi de chaos, quoi. Je pense que j'ai fait une dépression à ce moment-là. Je dis je pense parce que on ne sait jamais vraiment. ce que c'est les symptômes d'une dépression. Et puis bon, je continuais quand même mon métier, mais j'étais au plus mal. J'étais au plus mal, j'étais pas bien dans ma peau, je savais plus qui j'étais, je savais plus que si je valais quelque chose parce que je gagnais plus de matchs de tennis. J'avais fait tellement une... Je m'étais tellement identifiée à ce que je faisais, en fait, que je, moi-même, en tant que joueuse de tennis, si j'avais plus de valeur, ça voulait dire qu'en tant qu'être humain, j'avais plus de valeur non plus. Donc, c'était complètement horrible. Je ne m'épanouissais pas du tout. J'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Ah, c'était un calvaire. Et puis, voilà, au final, je m'en suis sortie. Mais ça, ça a été une grosse période de doute et de remise en question. Mais je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur moi-même aussi.
Et quels seraient les mots aujourd'hui de la Alizée qui en est sortie, qui est allée plus que de l'avant pour te rassurer à cette époque? Qu'est-ce que tu te dirais?
Ah, si je pouvais revenir en arrière en mode retour vers le futur, je dirais à mon moi de 20 ans que je vaux bien plus qu'une joueuse de tennis, qu'il faut pas que j'oublie que je suis une jeune fille avec plein de qualités et qu'il y a beaucoup de choses à donner autre que des victoires et autre que des émotions sportives et qu'il faut que j'arrive à développer cette partie de moi-même où j'arrive à me donner de l'amour et où je suis pas tout le temps en train de me dénigrer parce que je me suis tellement identifiée à mon tennis que au final je ne m'aime plus. Donc voilà, je lui dirais de se donner beaucoup d'amour, de se donner beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et d'arrêter de s'identifier avec ce qu'elle fait, mais plutôt avec ce qu'elle est. Et voilà, c'est dommage de pas l'avoir su plus tôt, mais en même temps, encore une fois, c'est le parcours d'une vie et c'est super enrichissant aussi de passer par des périodes de doutes comme ça.
Est-ce qu'il y a une situation en particulier que t'aimes bien?
Alors, une citation. C'est toujours la même qui me vient, mais elle est pourrie en plus. Mais c'est une de ma mère. Elle m'a toujours dit ça depuis que je suis toute petite. Bon, je vais la dire quand même. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Elle m'a toujours dit. Attends, parce qu'il faut que je la dise bien, parce que sinon, elle est encore plus pourrie. Alors, si on travaille, on n'est pas sûr d'y arriver. Mais si on est, si on travaille pas, on est sûr de pas y arriver.
C'est bien vu, non, parfois les choses les plus simples sont les plus évidentes. Enfin,
c'est ça, plus... je me suis pas... En gros, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté en travaillant, parce que si on ne travaille pas, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Et puis après, Benoît Paire est arrivé, et la citation, il me l'a jetée en l'air, voilà.
La plus grande fierté de ta carrière, ça restera quoi, Alizée?
D'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Que tout ce parcours... toute cette carrière depuis mes premiers pas, même depuis que j'ai 4 ans, aura formé, aura façonné la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis très contente de la personne que je suis devenue, de la joie que je ressens, de l'épanouissement que je ressens. Et en fait, tout ça, c'est grâce à mon cheminement depuis toutes ces années et grâce au tennis aussi qui a été super formateur. Donc voilà, je suis juste fière d'être à 30 ans la personne que je suis. Je pense que on m'aurait dit ça toute petite, j'aurais signé tout de suite, donc voilà.
Pourquoi avoir accepté cette interview?
Parce que, merde, c'est quoi son prénom? C'est quoi le prénom de ton collaborateur?
Johan.
Ah, parce que Johan me l'a super bien vendu. Non, je déconne.
Et bon, c'est Johan.
Non, mais parce que franchement, vous vous êtes fait un nom et que les vidéos, je trouve que ce que vous postez sur vos réseaux, c'est toujours hyper bon esprit, en fait. Déjà, ça valorise vachement le tennis, de tous les niveaux, de tous les horizons, et je trouve que c'est jamais dévalorisant, c'est jamais méchant envers les joueurs, c'est toujours sur le ton de l'humour, et je trouve que ça manque vachement. Donc dans ça, vous êtes unique et ne changez pas.
T'écoutes des podcasts?
Pas beaucoup.
Bon, eh ben ça te fera l'occasion d'en écouter un de plus.
Mais attends, rassure-moi, il va être coupé un peu, non?
Oui, il y aura quelques bas, mais l'avantage du podcast, c'est que le format audio, on le consomme vraiment différemment. Tu vois, on va le consommer pendant un trajet, pendant qu'on fait un footing.
Ouais, voilà, en ce moment, du coup, c'est pas trop d'actualité. Pendant un trajet de ta cuisine jusqu'à tes toilettes, tu mets ton podcast.
Me parle pas, je suis en podcast.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici pour parler tennis, parler en français, c'est assez important, et que surtout, tu pourrais nous aider à convaincre?
Gilles Simon. Sans aucun doute. Ouais, bah Gilles, il est top, il est super intéressant, c'est une bible du tennis, il est hyper intelligent et il faut le sortir un peu de sa tanière parce que je pense qu'il sera pas évident à avoir, mais par contre, il y aura de la matière derrière. Ouais, y a une personne qui me vient comme ça parce que je l'aime bien et je la trouve assez intéressante. Et en plus, elle a un parcours assez atypique. Je sais pas si tu connais, c'est Sophie Amiac.
Non, je connais pas.
C'est Sophie Amiac. Bon, elle a été, elle a fait partie de, bon, elle a quoi? Elle doit avoir 50 ans, un truc comme ça. Elle a fait partie des meilleures joueuses françaises à l'époque. Maintenant, elle est installée aux États-Unis et c'est elle qui commente tous les matchs quasiment en anglais pour les broadcasts américains. Elle est passionnée de tennis. Elle a commenté un nombre de matchs incalculable. Donc, je pense que c'est aussi une bible. Et puis surtout, elle a l'expérience d'avoir été pro, mais pas dans notre génération. À l'époque, donc il y a 30 ans, quoi. Donc ça peut être intéressant aussi de l'avoir. Après, bah, écoute, je suppose, bon, Pauline, elle est quand même bien bonarde. Tu vas bien te marier avec elle, je pense.
Je s'entraînais un peu avec Pauline. J'étais à Mouratoglou quand j'avais 13 ans.
Ah ouais? Attends, à Mouratoglou, à Paris.
Ah ouais, à Thivor-Valgagnan, ouais, dans les Yvelines. Quasi. À chaque début de jeu, elle me collait un ail. Ça me rendait dingue.
C'est bon, ça. Elle sert bien, Pauline. Hein. C'était un de ses meilleurs coups. Ouais.
Dernière question, le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter relatif à ta carrière?
Bah, de gagner Roland. Quelle question! le truc le plus incroyable, non, ce serait de gagner Roland, évidemment. Ce serait. Il faut y croire, il faut toujours y croire.
Ouais. Il y a un truc, t'as un objectif vraiment auquel tu déroges pas, que tu veux réaliser avant de terminer, quelque chose de.
Ouais, il y a un objectif, c'est que j'aimerais, avant d'arrêter ma carrière, c'est de jouer le tennis. Que j'ai toujours rêvé de jouer et d'être la joueuse que j'ai toujours rêvé d'être sur le terrain. Et en fait, la métamorphose, elle est déjà en cours. Déjà, l'année dernière, je n'ai pas fait une saison de dingue, mais si des gens ont suivi un petit peu mes matchs de temps en temps, le changement en termes d'attitude, il a été incroyable. Moi, je l'ai senti sur le court et j'en étais hyper fière parce que c'est pas facile de changer des années et des années de mauvaises habitudes. Et là, j'ai commencé vraiment à aimer cette joueuse. Et c'est un énorme pas pour moi qui est toujours un peu dénigré un peu l'aspect mental de ma carrière. Je me suis jamais trop aimée, j'ai jamais trop aimé me regarder jouer. J'étais pas trop fière de moi. Et là, maintenant, j'arrive vraiment à être fière de la joueuse que je suis sur le terrain. Et si en plus à ça je pouvais ajouter ce dont je te parlais tout à l'heure, le jeu vers l'avant, l'agressivité dans le jeu, c'est pas des objectifs des résultats, mais je pense que ce seront des objectifs qui m'amèneront des résultats. Donc voilà, j'essaierai à fond.
Génial, merci beaucoup Alizé, vraiment c'était une surprise incroyable, vraiment j'ai adoré.
Une surprise, c'est-à-dire
l'échange avec toi, je te connaissais pas du tout personnellement ou quoi que ce soit, j'ai pas la prétention de dire que je te connaisse, mais juste l'échange, en tout cas, ouais, était vraiment un cool. Pur plaisir. Merci beaucoup.
Merci à toi. Non, c'était sympa. Et puis, bonne continuation.
Prends soin de toi, en tout cas.
Et puis, ouais, merci bien. Maxime. Je te tiens au jus pour Gilles et Sophie, et si ça t'intéresse. Et puis, voilà. Allez. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao.
Pour terminer l'interview, j'ai posé deux questions bonus à Alizé le lendemain. La première, sa vision du circuit actuel, des joueuses qui le composent, du haut de ses 15 années d'expérience. Et la deuxième, son intuition sur une évolution du format de jeu, à savoir des sets un peu plus courts ou voilà une intuition X ou Y. J'ai essayé d'emmener la première question le plus délicatement possible parce que ça pouvait être un peu touchy. A priori, ça a été. Je vous laisse découvrir sa réponse.
Écoute, ta question, elle est effectivement très bien amenée. Franchement, t'es fort. Ça se voit que t'as de l'expérience pour mener ce genre de discussion sans que ça arrive au drame. Non, mais pour répondre à ta question, je me sens pas du tout vieille encore sur le circuit parce que vu que maintenant la limite d'âge elle est de plus en plus tard. Au final, si j'avais pas commencé aussitôt, je serais presque au milieu de ma carrière, quoi. Mais bon, là, c'est vrai, on va pas se mentir, je suis plus à la fin qu'au début. Et du coup, mon regard par rapport aux jeunes joueuses qui arrivent, écoute, c'est un regard assez admiratif, parce que personnellement, je les trouve assez matures et assez costauds dans la tête pour leur jeune âge. Et ce qui me plaît avant tout, c'est qu'on a des styles de jeu différents qui arrivent. On peut avoir des grosses cogneuses qui frappent très fort, qui sont très agressives, comme Osaka, comme Jastrzębska et d'autres. Et on a des joueuses aussi avec un petit peu plus d'intelligence de jeu, avec une tactique, on va dire un petit peu plus subtile, comme Kasatkina, même si elle est un peu moins jeune maintenant, Andreescu et ce genre de joueuses. Et du coup, ça donne lieu vraiment à des oppositions de style assez intéressantes. Moi j'aime beaucoup la nouvelle génération qui arrive parce que elles en font pas des tonnes, elles sont là pour jouer au tennis. C'est pas des générations de filles qui se regardent jouer, je trouve. Voilà, on est des athlètes féminines, elles sont juste là pour gagner les matchs, pour taper dans la balle. Ça rend effectivement le tennis hyper compétitif pour les vieilles comme nous, entre guillemets, parce qu'on se doit de rester à ce niveau-là et de continuer à progresser au final, parce que vu que ça pousse fort derrière, il n'y a pas le choix. Il faut progresser, faire évoluer son niveau pour pouvoir rester en phase avec ces jeunes filles de 20 ans et moins parfois. Donc c'est pas évident, mais c'est excitant pour, je trouve, mon après-carrière, de pouvoir voir du beau tennis féminin aussi quand j'aurai fini. De voir ça à la télé, ça va être très sympa. Moi, j'adore le tennis, j'adore regarder le tennis à la télé. Et je pense qu'on va avoir des beaux affrontements dans le futur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question par rapport au jeu dans le futur et au système de jeu qu'on va pouvoir avoir dans les années à venir. Le format, j'en ai aucune idée. Honnêtement, pour moi, ça m'étonnerait vraiment qu'ils changent les 7 de 6 pour les transformer en 7 de 4. Même si effectivement, on a vu ça sur la Next Gen et qu'ils essayent petit à petit de mettre ça en place pour que ça rende les matchs plus intéressants, plus excitants pour le public. Moi, je pense que le public, les vrais fans de tennis, ils n'ont pas forcément envie que ça change parce que c'est comme ça depuis toujours. C'est un sport historique et je trouve que... Il y avait une super interview de Gilles Simon en fin d'année dernière, je crois, ou en début d'année, qui expliquait qu'on était vraiment dans une sorte de course à l'innovation dans le tennis, à changer tout ce qui se passe, le score, la manière de jouer. Bientôt, on va nous interdire de prendre du temps entre les points, et je trouvais ça super intéressant. De voir que dans un optique de marketing, ils essayaient de changer un peu l'essence du tennis. Donc, je ne sais pas si dans 5 ans, il y aura eu de gros changements. Là, ils accélèrent de plus en plus, on va dire, le rythme des matchs et tout ça. C'est pas plus mal parce qu'il y avait des joueuses et des joueurs qui prenaient vraiment trop de temps. Mais il faut aussi respecter le fait qu'on se déchire la paillasse sur le court dans des conditions parfois extrêmes. Et on a aussi le droit d'avoir un peu de temps pour récupérer, d'avoir un peu de temps pour souffler. On n'est pas des machines. Donc voilà, je suis très curieuse de savoir comment ça va se dérouler, toutes ces négociations avec les différentes associations du tennis. Mais moi, je pense que ça va plutôt... rester dans ce format-là, voilà, on verra si l'avenir me donne tort ou raison. Mais je pense que d'ici là, j'aurai arrêté ma carrière, donc ça me concernera plus directement. Voilà, bon, bah, j'espère que tu as ce qu'il faut. Bon courage pour le montage et puis à très vite. Salut!
Merci d'avoir pris de ton temps pour écouter l'entretien avec Alizée dans son intégralité. Ça compte beaucoup pour nous. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi. Et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous encourager à tout donner chaque semaine. On a d'ailleurs eu 4 commentaires cette semaine qui font chaud au cœur. Un grand merci à Capu, Blueberry et Mjaré pour la qualité de vos blazes, et surtout d'avoir pris le temps de nous écrire ces quelques lignes. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail et tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Et autre grande nouvelle, on a un nouveau généreux donateur qui fait vraiment, vraiment kiffer. En nous soutenant à hauteur de 10€ par mois, c'est hyper cool. Merci à toi, Max. Et en même temps, avec un prénom pareil, tu pouvais être qu'un mec bien. Merci donc pour ton adorable geste et commentaire que vous pouvez retrouver sur la page Tipeee en description de l'épisode. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur la boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. T'as également le lien dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. Profitez bien de Roland et à très vite. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.